Merci Fabrice d'annoncer comme ça notre sujet d'aujourd'hui, une colline inspirée au début du XXe siècle, Montmartre. En ces temps bénis, l'air de Montmartre avait des vertus insoupçonnées qui permettaient de vivre sans manger. Nous disions amour, nous disions gloire, aucun ne pensait argent. Roland d'Orgelès. D'histoire. Les habitants de Montmartre aiment bien rappeler que c'est avec le plâtre de leur carrière que l'on a construit Paris. Si bien disent-ils qu'il y a plus de Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre. À les entendre, la capitale de la France serait en quelque sorte le faubourg de Montmartre et non l'inverse. Jaloux de leur indépendance, fiers de leur commune libre, perchés sur les 129 mètres de la butte, ils se souviennent du temps où Aristide Bruand chantait au chat noir, où Apollinaire récitait des vers au lapin agile et où Picasso inventait le cubisme au bateau lavoir. Ils avaient succédé à une génération d'artistes inspirés avant eux par les vignes, les moulins et les cabarets de Montmartre.
Allez, dis donc, l'Aristo, tu cherches des voix pour te présenter aux élections de Montmartre ?
Yes. Aristide Bruand.
Montmartre n'aime ni les aristos ni les bourgeois. Sur cette colline inspirée, monsieur de Toulouse, on aime le rouge et la viande crue. Ça donne des forces. Ici, on se torche avec les bonnes manières. On chante la poésie de la rue. Le cancan.
La fleur des fleurs du pavé de Montmartre. Le quadrille. La bombe romain.
Dan Franck, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier chez Mingès un livre, Les années Montmartre, mais le Montmartre que vous y décrivez est postérieur à celui de Lautrec et de la Goulue, c'est celui de Picasso, de Braque, d'Apollinaire, qui s'y retrouvaient, qui s'y sont retrouvés, qui se sont rencontrés à Montmartre au début du XXe siècle. Qu'est-ce qui, à l'époque de Toulouse-Lautrec, sans doute déjà, mais à l'époque de Picasso, attirait tant les artistes à Montmartre?
D'abord, il y avait la réputation de Paris en général. Paris était la capitale de l'art à cette époque, ou en tout cas allait le devenir, parce qu'il y régnait une très grande liberté. On pouvait y vivre pour pas très cher. Et par exemple, Montmartre avait une réputation qui dépassait les frontières de la France, notamment en Espagne. C'est d'ailleurs en Espagne que Picasso a découvert Montmartre. Et on essayait de reproduire des quartiers de Barcelone qui ressembleraient à Montmartre. Donc c'était pas cher. C'était un quartier excentré de Paris, et vous savez bien que les artistes aiment plutôt être sur les bordures qu'au centre, au centre-ville. Il en est d'ailleurs de même pour Montparnasse, et il y avait cette tradition.
Oui, c'était un faubourg, hein, on l'oublie toujours, c'était pas le centre de Paris au 19e siècle.
Non, c'était ça avait beau être la capitale artistique du monde, c'était, il y avait les grands boulevards qui partageaient Paris, enfin qui, en tout cas qui coupaient Montmartre de Paris, et donc la vie était pas chère, il y avait une tradition libertaire très importante, de jeu, de joie, de liberté, de filles, de cabaret, etc., de spectacle.
Il n'y avait pas, d'ailleurs, il y avait déjà dès le 19e siècle des peintres, je crois que le premier qui était le peintre de Montmartre, Georges Michel, puis Toulouse-Lautrec, Degas, Dufy, et puis aussi des poètes, avant Apollinaire, et Verlaine et Rimbaud, qui allaient boire de l'absinthe dans les cabarets de Montmartre, dans un lieu qui n'était quand même pas prédisposé à accueillir des danseuses de French Cancan ou des buveurs d'absinthe. Franck, c'est assez extraordinaire ce paradoxe qu'il y a, parce que Montmartre, c'est quoi? C'est le mont des martyrs à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où Saint-Denis a été décapité avant que on enlève et on emporte ses restes dans une tombe de la ville de Saint-Denis. C'est curieux ce contraste entre cette vocation religieuse de Montmartre à l'origine et puis la commune de Paris, par exemple.
C'est ça, il y a la commune. En fait, quand l'histoire du livre livre Les années Montmartre commencent, on n'est pas très loin de la Commune. La Commune, c'est 1870, donc 30 ans avant, 35 ans avant maximum. Et donc, la Commune est très présente. Il y a des cabarets qui sont des cabarets tenus par des libertaires, souvent par d'anciens communards. C'est une Commune libre déjà, qui a cette réputation de vie libre. Il y a le maquis où traînent les voyous de Paris qui s'y cachent, les policiers qui viennent essayer de les débusquer, mais la population les soutient. C'est surtout la tradition, plus que la tradition religieuse, c'est évidemment la tradition libertaire liée à la Commune qui a attiré les artistes à Montmartre.
Et la Commune, d'ailleurs, à cause de laquelle on a construit au sommet de la butte, et pour la purifier, entre guillemets, la fameuse basilique du Sacré-Cœur.
C'est la construction de Thiers, ouais.
Ça commence en 1876, ça se termine en 1910, à l'époque où d'autres artistes que Toulouse-Lautrec sont venus s'installer à Montmartre au début du XXe siècle.
Qu'est-ce que tu peins, hein?
Des vues de Paris.
À l'huile, d'après nature, comment tu peins?
À l'huile, à l'aquarelle. Quant aux cartes postales, on peut dire qu'elles sont parfaites. C'est vraiment mon rêve. Ma mère aussi est peintre, et un bon peintre, tu peux me croire. Elle est même assez renommée, Valadon, Suzanne Valadon. Elle a été le modèle préféré de Toulouse-Lautrec.
Mais qui est Toulouse-Lautrec?
Le prince de Montmartre. Mais il est mort. Il y a un bout de temps. Hé, hey, tu cherches un atelier?
Oui.
Je connais un endroit où il n'y a que des ateliers d'artistes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas tout à fait à côté. Si tu veux, je peux t'accompagner.
Et toi, t'es qui?
Maurice.
Je m'appelle Amedeo Modigliani. Et toi, tu as dit?
Momo. Maurice Utrillo.
C'est Maurice Utrillo, entraînant Modigliani au bateau Lavoir, on en reparlera. Utrillo, c'est vraiment le premier pratiquement dont vous parlez, d'Anne Frank, dans vos années Montmartre. C'est vrai que c'est un enfant du pays. Il y est né, il y a vécu, il y est devenu peintre.
Sa mère était en effet Suzanne Valadon, qui a eu nombreux amants parmi les peintres, et pas seulement, puisqu'elle était aussi la maîtresse d'Éric Satie, le musicien Éric Satie. Et Utrillo, c'est une figure extraordinaire de Montmartre. D'abord, on l'appelait Litrillo parce qu'il était ivre mort du matin au soir, et c'est pas une histoire anodine. Quand il n'avait pas ses 14 litres par jour, il buvait de l'eau de Cologne.
14 litres.
Enfin, c'était extraordinaire. Ouais. Il avait une capacité d'ingurgitation phénoménale. Et c'est justement pour essayer de d'étancher sa soif autrement que sa mère l'a collé à la peinture. Elle a rencontré un jour un psychiatre qui lui a dit, écoutez, essayez de lui trouver une activité. Et elle l'a obligé à peindre, et finalement, il y a pris du plaisir. Et d'ailleurs, c'est formidable parce que, au fond, Utrillo était très, très pointilleux. Il était très, très exigeant sur le détail de ce qu'il pouvait faire de Montmartre. Donc, il peignait d'après nature ou d'après carte postale, de façon très précise dans sa chambre, et après, il s'enivrait, ou bien il lançait des feux d'artifice, ou bien... Enfin, c'était un grand fêtard, un peu triste, un peu tragique, coincé entre sa mère, qui était elle-même une grande artiste, et son ami, qui s'appelait André Uther, et qui était devenu son beau-père, qui avait fini dans les bras de sa mère. Donc, évidemment, c'est pas une histoire simple, et ça peut expliquer peut-être le goût de Litrillo pour la bouteille.
Sa mère, assez incroyable, on la voit d'ailleurs en photo, posant, nue, comme modèle. Elle était acrobate, peintre, modèle, elle avait été d'ailleurs modèle de Toulouse-Lautrec, de Renoir, etc., de la génération qui a précédé ceux dont nous allons parler. Alors, il y avait aussi d'autres peintures qui sont nées à Montmartre. Il y avait le fauvisme.
Oui, alors le fauvisme n'est pas né exactement à Montmartre, simplement. Le fauvisme, les inventeurs, au fond, c'est Vlaminck, Derain et Matisse. Et le premier qui a trouvé le fauvisme, enfin l'union des couleurs comme ça un peu étrange, c'est Matisse qui n'était pas à Paris à l'époque, qui a appelé Derain, lui-même a rencontré son copain Vlaminck. Et vous savez, le fauvisme, c'est ces couleurs extrêmement vives, extrêmement violentes qu'on crache sur la toile. Et c'est vrai que Derain habitait Montmartre, Vlaminck habitait Château et Matisse habitait rive droite, ou en tout cas de l'autre côté des grands boulevards, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque.
Alors il y avait les fauves, il y avait aussi ces cabarets, beaucoup des écrivains d'ailleurs qui ont écrit sur Montmartre, vous les citez, il y avait, et qui ont connu ces peintres, il y avait Macorlan, il y avait Carco, et il y avait Roland d'Argelès, que l'on entend dans cette archive de 1958.
C'était un lieu destiné aux prodiges, et de siècle en siècle, des miracles s'y sont produits. Le dernier a été l'éclosion subite de la peinture moderne. Pas seulement l'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, je vous le dis, c'est une terre à prodiges. À Montmartre, c'est la peinture qui fait vivre le pays. On étale de la couleur, on arrose avec un peu d'huile et hop, le chef-d'œuvre jaillit tout seul.
Le chat noir, planté par Aristide Brouillon. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre le soir.
Le chat noir, chanté par Aristide Bruand en 1911, je crois, hein, c'est une très vieille archive. Les années Montmartre, vous le rappelez, d'Anne Frank, c'était aussi celle de quelques grands cabarets célèbres.
Ben, le plus célèbre, en tout cas l'un des plus célèbres, c'était le Lapin Agile, qui appartenait d'ailleurs, qui appartenait la guerre à Bruand. Il y a une histoire fameuse d'ailleurs autour du Lapin Agile, qui était un tout petit bistrot, qui existe toujours d'ailleurs.
Ouais,
un
oui.
Bistrot tout petit, tout sombre, avec une petite terrasse devant, qui était pas cher, on faisait crédit, donc les artistes y allaient sans cesse. Le patron, si j'ose dire, du Lapin Agile s'appelle le Père Frédé. Le Père Frédé avait un âne. Il avait un âne, et un jour, d'Orgelès, qu'on a entendu tout à l'heure, lassé par la création de toutes ces écoles, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, et j'en passe, a décidé d'inventer son école. Et il a donc créé un peintre qui s'appelait Boronali. En fait, Boronali, c'était l'âne du Père Frédé du Lapin Agile, cet âne auquel on avait accroché un pinceau, et on lui donnait des carottes, et il était tout content, donc il agitait sa queue, et sa queue était donc devenue une arme à peinture, et il y avait un huissier qui a reconnu cette affaire, et cette toile qui a été donc inventée par l'âne du Lapin Agile est devenue l'œuvre majeure d'un peintre qui a créé une nouvelle école. La presse l'a salué, et un jour d'Orgelès, qui était responsable de la blague, a dit ben non, figurez-vous, on s'est bien moqué de vous. Montmartre, c'était ça, c'était la blague en permanence.
C'était le Lapin Agile qui avait appartenu, je crois, à un ancien communard, André Gilles. Ça voulait dire le Lapin Agile,
Agile.
Et puis alors le Chat Noir avec Bruand, et puis ce qu'on appelait aussi les dancings, hein. Il y avait les moulins qui étaient d'autres moulins que ceux qu'on voyait à Montmartre. C'était pas des moulins avant, c'était le moulin de la Galette, le moulin rouge.
Oui, c'était tous ces lieux de fête,
en fait,
qui sont devenus des lieux de tourisme aujourd'hui, mais qui n'étaient pas ça. Montmartre est devenu ça, mais d'ailleurs assez vite au fond. Les moulins, les dancings, les bals, c'est là où toutes les populations se croisaient, c'est là où les bourgeois venaient s'encanailler, c'est là où les artistes retrouvaient leur modèle. Tout le monde était modèle.
Oui, enfin les artistes eux-mêmes, ils étaient tout le temps dans ces endroits. On leur faisait crédit. Parfois, je crois qu'ils devaient payer avec une toile. Mais alors, ils vivaient assez misérablement dans un haut lieu de Montmartre qui a disparu en 1970, je crois, dans un incendie, et qui était, vous en parlez longuement, le bateau Lavoir.
Oui, il faut dire que tous ces peintres qui vivaient à Montmartre vivaient dans la dèche et la misère. Il y a un livre, un des premiers livres ou un des grands livres sur Montmartre s'appelle La vie de Bohème d'André Murger, qui raconte l'histoire de ces peintres. Et au fond, la Bohème, c'est beau après. Mais à l'époque, c'est vrai qu'ils crevaient tous la dalle, ils avaient rien à manger, ils avaient pas d'argent, et ils habitaient le bateau Lavoir. C'est Picasso qui est arrivé l'un des premiers au bateau Lavoir, qui a été nommé ainsi par Marc Jacob, en souvenir des bateaux qui se promenaient sur la Seine, des bateaux à fond plat sur lesquels on lavait le linge. Et le bateau à Lavoir, qui était une ancienne manufacture de pianos, était un endroit où il faisait très très chaud l'été, très froid l'hiver, les cloisons étaient très minces, mais tout l'art de cette époque est passé là. Picasso habitait ici, Juan Gris y a habité, Derain passait sans arrêt, Vlamin qui a habité aussi, Apollinaire, enfin, c'était une espèce de carrefour extraordinaire, développé beaucoup par Picasso quand il est arrivé, et c'est là que s'est inventé l'art moderne.
Il vivait très mal, on oublie toujours, quand on sait aujourd'hui le prix de leur toile, ils vivaient vraiment dans la misère. Ils n'arrivaient pas à manger tous les jours. Enfin, il y avait vraiment des...
Ils étaient assez solidaires. C'est-à-dire que, par exemple, Marc Jacob, quand Picasso arrive à Paris, Marc Jacob le loge et le nourrit en travaillant. Juan Gris, quand il est très pauvre, Picasso l'aide à son tour. Il y a une espèce de solidarité. Et il y a un grand débat, qui est un débat tout à fait fondamental à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre? Est-ce qu'on doit faire un autre métier, ou bien est-ce qu'on doit tremper son pinceau dans un autre pot de peinture que son œuvre proprement dite? Il y avait des peintres comme Vlaminck, par exemple, très méprisé d'ailleurs par Picasso, ou bien Juan Gris, qui dessinait pour des journaux satiriques comme l'Assiette au beurre, et qui gagnait un peu d'argent en faisant ça. Et d'autres qui refusaient totalement, qui disaient « je suis un peintre », parce que quand même, l'exigence commune de tous ces artistes était énorme, et ils savaient bien, tous, qu'ils constitueraient un jour les pivots de l'art moderne, les fers de lance de l'art moderne. Ils avaient une très grande exigence, une haute idée d'eux-mêmes, et de leur talent.
Le pivot de ces pivots, comme vous le dites, d'Anne Frank, vous l'avez souvent nommé, il est arrivé en 1904 à Montmartre, et pendant ce qu'on a appelé sa période rose.
La couleur est déconcertante, sublime. Je trouve très ingénieux le choix de la dominante bleue ou rose pour exprimer l'angoisse et la mélancolie.
C'est génial.
Merci.
Vous êtes le propriétaire de la galerie ?
Non. L'auteur des toiles. Je suis espagnol. Je m'appelle Pablo Picasso.
Je l'ai connu en 1907. Je cite en 1907 que je suis monté pour la première fois l'escalier de la petite place triangulaire qu'on appelait dans ce temps-là la place Ravignon pour entrer dans cet étrange bâtiment qu'on appelait depuis le bateau Lavoir, dans lequel on entre par le haut. Et je suis entré dans son atelier. Ce lamentable atelier misérable au papier arraché des murs, au divan défoncé, pauvre atelier dans lequel il y avait Picasso, il y avait un très gros chien, il y avait une très belle femme, et il y avait cet admirable tableau qui est le point de départ du cubisme, les demoiselles d'Avignon.
Et c'était un célèbre marchand de tableaux, Kahnweiler, racontant sa rencontre avec Picasso, qui est un peu au centre de toute cette bande de peintres. On disait toujours la bande à Picasso, c'était sans doute celui qui émergeait le plus, en tout cas à vous lire, d'Anne Frank. Il arrive quand à peu près à Montmartre ?
Il arrive à Paris et à Montmartre d'ailleurs en 1900. Il y a une petite toile de lui qui représente l'Espagne à l'exposition universelle de 1900. Il revient ensuite en Espagne et il retourne en France en 1903-1904. Et il rencontre là un autre pilier de Montmartre qui s'appelle Max Jacob, qui est un poète absolument formidable, qui s'occupe de lui, qui l'aide, qui lui apprend la langue, qui lui fait découvrir la littérature. Et à cette époque-là, Picasso peint un peu à la manière de Toulouse-Lautrec. Il gagne un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais un petit peu.
C'est pas encore sa période rose.
Non, sa période vient plus tard. Il y a d'abord la période donc Toulouse-Lautrec. Ses toiles sont vendues par Vollard, le marchand qui est rue Lafitte. Et puis ensuite, il est dans une période plutôt sombre, qu'on a appelée la période bleue, qui correspond au suicide de son ami Casamégas, qui s'est suicidé d'une balle dans la tête par chagrin d'amour dans un café de Montmartre et que Picasso aimait beaucoup. Et donc pendant ce temps-là, enfin à cette époque, Il peint des œuvres sombres, il peint les prisonnières de Saint-Lazare, de la prison de Saint-Lazare, il y va, il est donc lui-même un peu d'humeur très sombre. Et puis il rencontre Fernande Olivier, qui est donc sa première grande maîtresse officielle, ce qu'il n'interdisait pas d'ailleurs d'aller voir les prostituées. Les prostituées étaient un passe-temps extrêmement important à Montmartre.
L'inverse n'était pas vrai, il était hors de question que Fernande Olivier justement puisse se faire même regarder par quelqu'un d'autre, vous le dites.
Picasso a toujours été extraordinairement jaloux. Il s'est fâché avec Vandongen, qui avait peint sa maîtresse Fernande Olivier pourtant un peu avant. C'est un homme très jaloux. Mais c'est vrai que quand Picasso arrive à Montmartre, comme partout, quand il arrive quelque part, tout le monde vient autour de lui. C'est-à-dire que tout le monde considère très rapidement que c'est un génie. À la fois André Salmond, qui est un poète dont on parle plus beaucoup, Max Jacob, d'autres qui viendront plus tard, Guillaume Apollinaire, on y reviendra. Toutes ces personnes savent tout de suite, comprennent que Picasso est un génie. Et donc Picasso a une faculté comme ça d'agrégation autour de lui. Il agrège des gens très divers, parce qu'on oublie toujours de parler de Braque. Il a inventé le cubisme non pas tout seul, mais avec Braque. La part de Braque est aussi importante, sinon plus d'ailleurs, que celle de Picasso.
Et la bande à Picasso, de votre livre,
oui. Et la bande à Picasso est formée, constituée un peu de tous ces artistes, les fauves dont on a parlé, Vlaminck, Dorin, pas Matisse. Matisse, on en parlera. Matisse, il est de l'autre côté. C'est un bourgeois, Matisse, à côté de Picasso. Et donc cette bande à Picasso, c'est une bande, on l'appelle la bande à Picasso, et ce sont des artistes qui sont très jeunes, très pauvres et extrêmement fêtards. Ils tirent au revolver, ils réveillent le bourgeois, ils se baladent dans les rues la nuit, ils font des scandales nocturnes, ils font des fêtes extraordinaires. Et c'est ça la bande à Picasso. Ils sont en bleu de chauffe parce que c'est l'outil des ouvriers à l'époque. Picasso est plutôt libertaire d'ailleurs. Donc on les reconnaît à leur tenue flamboyante, bizarre, leurs accoutrements étranges et leurs manières qui ne correspondent absolument pas à celles des bourgeois des grands boulevards.
Oui, parce qu'ils sont dans la dèche, hein, vous l'avez dit. Alors, il y a des personnages très importants qui n'habitent pas Montmartre, mais qui viennent les voir, évidemment, et qui vont les aider. Il y a, par exemple, on en parle dans une seconde, les marchands de tableaux, comme Kahnweiler. Il y a aussi une organisation dont j'ignorais totalement l'existence, d'Anne Frank, qui s'appelait la Peau de l'Ours. Ça, c'était assez extraordinaire.
Oui, et c'est
qui, grâce à laquelle vivaient ces artistes, en partie.
C'est-à-dire, la Peau de l'Ours, ce sont des étudiants qui au début du siècle, se sont dit, en 1904, d'ailleurs, quand Picasso arrive, se sont dit, on aimerait bien acheter des œuvres contemporaines, mais on n'a pas d'argent. Donc, ils se sont groupés, ils ont fait une cagnotte commune, et ils achetaient une toile ou deux par mois de peintres qui n'étaient pas connus à l'époque, qui étaient Matisse, Picasso et ceux dont on vient de parler. Et le principe, c'était que les tableaux passaient d'une maison à l'autre. Voilà, ces étudiants se faisaient tourner les toiles chez eux, ils faisaient ça pour l'amour de l'art et la beauté des œuvres. Et ils avaient décidé que 10 ans plus tard, ils revendraient aux enchères à Drouot la collection qu'ils avaient amassée. Et en 1914, la Peau de l'Ours a organisé une vente à Drouot, qui était la première vente cubiste, où tous les peintres dont ils avaient acheté les œuvres ont vu leurs toiles se revendre, parfois à des prix extrêmement chers. Picasso était déjà riche en 1914, notamment grâce à la Peau de l'Ours.
Oui. Alors, cet argent, je crois, c'est ce que vous dites, en tout cas d'Anne Frank, était reversé au peintre.
Il a été reversé au peintre, absolument.
Il avait fructifié,
oui.
Grâce à la Peau de l'Ours, et il retrouvait cet argent 10 ans plus tard.
Voilà, les membres de la Peau de l'Ours n'ont absolument pas fait de bénéfice, ils ont gardé leurs frais de fonctionnement, ouais. Et c'est tout. Alors ça, il y avait donc ces gens-là, il y avait des marchands qui étaient des brocanteurs, comme Libaud ou d'autres, et qui vendaient des toiles sur le trottoir, à côté de vieilles poussettes ou de vélos démantibulés. Parallèlement à ça, il y a eu un peu plus tard d'ailleurs les grands marchands comme Vollard et surtout des mécènes comme Gertrude Stein, par exemple.
Peinte par Picasso,
peinte par Matisse. Gertrude Stein était une Américaine, c'est celle qui a parlé de la génération perdue en disant à Hemingway un jour, vous êtes des auteurs de la génération perdue, ce qui a fait rire beaucoup Hemingway. Donc Gertrude Stein était très riche, elle arrive en France et elle décide de monter une collection avec son frère, une collection de tableaux d'art moderne. Elle entend parler de Picasso un jour et elle lui rend visite. Et puis, elle lui achète une toile ou deux, puis il fait son portrait. Il a d'ailleurs du mal à le faire parce que c'est au moment où il crée le cubisme avec Braque et que donc il a dans sa tête un mécanisme qui change. Il a découvert l'art nègre, donc il peint plus de la même manière. Et Gertrude Stein a acheté des tableaux à tout le monde. Elle a permis à ses peintres, à ses artistes de vivre pas trop mal. Et alors, elle habitait rue de Fleurus, dans un appartement qui était un atelier extraordinaire, où tous ses tableaux étaient suspendus au mur. Et son grand plaisir était d'inviter une fois par semaine, je crois que c'était le jeudi, tous les artistes dont elle avait acheté des œuvres. Et donc, elle asseyait Matisse sous son propre portrait peint par Matisse, et Picasso sous le sien peint par Picasso. Et alors, elle observait ce jeu des artistes conviés à sa table, qui étaient souvent très jaloux les uns des autres. L'histoire de Matisse et de Picasso est une histoire extraordinaire. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de Gertrude Stein et autour de l'art nègre. Et c'était une personne très importante.
Picasso se fâchait souvent. Alors vous citez, parce qu'on en a peu parlé, vous les avez évoqués, mais quand même ils sont très présents dans votre livre et je suppose dans le Montmartre de l'époque, des poètes. Il s'est fâché avec son grand ami, je parle de Picasso, s'est fâché avec Max Jacob. Ils étaient très importants tous les deux, Jacob et Apollinaire.
Il a été, je viens d'écrire un film sur Max Jacob, donc j'ai étudié de très près le rapport. Il a été extrêmement méchant, Picasso, avec Max Jacob, qui est un homme qui l'a, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, qui lui a sauvé la vie quand il est arrivé à Paris. Et puis, ils sont restés au fond liés pendant un certain nombre d'années, mais quand Guillaume Apollinaire est arrivé, Picasso a à peu près tourné le dos à Max Jacob, parce que Apollinaire était sans doute plus brillant. Moins drôle mais plus brillant. Surtout, il écrivait déjà dans la presse. Il était beaucoup plus connu que Max Jacob. Et Picasso, plus tard, reprochera beaucoup à Max Jacob d'être resté là où ils en étaient tous, alors que lui-même et Apollinaire étaient montés sur des firmaments artistiques que Max Jacob ne connaîtra jamais. Mais Picasso et Apollinaire, c'était un très grand couple artistique de cette période de l'histoire de l'art et à Montmartre.
Et Apollinaire, qui ne faisait pas qu'écrire, figurez-vous, il parlait aussi, on écoute, il a été enregistré dans cette très vieille archive, une des plus vieilles archives de la radio, en 1913, pour son plus célèbre poème.
Où le bon Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le fond de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont le demain.
Extraordinaire cette voix.
C'est très émouvant. Moi, j'ai toujours été ému par la voix d'Apollinaire. Apollinaire il est mort très tôt, hein, puisque il est mort à la fin de la guerre, en 1918, la première guerre.
De la grippe espagnole, de la blessure qu'il avait reçue 2 ans plus tôt.
Mais c'était un immense poète et un très très grand camarade de Picasso. Et c'est vrai que sa mort a laissé un trou formidable, incroyable. À Montmartre.
On a l'impression d'ailleurs à vous lire, d'Anne Frank, que c'est avec la mort d'Apollinaire que se termine en tout cas l'apogée de ces années Montmartre.
Ben, c'est-à-dire que oui, Montmartre a perduré, existe encore aujourd'hui. La seule chose, c'est que les artistes qui étaient à Montmartre sont partis un peu après Picasso. Pas tous, mais beaucoup. Certains sont restés comme Dorgelès et d'autres. Sont allés à Montparnasse. Sont passés d'une montagne à une autre, d'un mont à l'autre, parce que les loyers augmentaient, parce qu'il y avait des touristes déjà, et parce qu'ils avaient épuisé, cette richesse. Et d'autre part, ils ont rencontré à Montparnasse d'autres gens, d'autres poètes, des sculpteurs, et ça allait donner naissance à une autre école artistique qui est celle des années Montparnasse.
Peut-être aussi parce qu'ils étaient devenus plus célèbres, plus connus, que leurs tableaux se vendaient mieux. Alors ils n'avaient pas forcément Montparnasse, mais dans des quartiers qui coûtaient éventuellement plus cher. En tout cas, ils ont laissé derrière eux des touristes. On est toujours à leur recherche, de même qu'on recherche encore Sartre sur la terrasse du Café de Flore. Mais c'est plus du tout le même Montparnasse aujourd'hui.
Non, c'est plus le même. Mais vous savez, les
même
lieux...
si leurs oui. fantômes sont encore là.
Les fantômes sont encore là, Montparnasse non plus, mais vous savez, quand vous allez vous promener à Montmartre, quand vous connaissez un peu l'histoire de Montmartre, vous respirez encore ça. Ce sont des lieux qui sont extrêmement chargés d'histoire, et ça suinte quand même au-delà des touristes, au-delà de la modernité qui a envahi Montmartre. C'était quand même un pays, c'était un vrai pays à lui seul, Montmartre, et ça l'est resté quand même si ce pays a changé.
Merci d'Anne Frank. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Années Montmartre, Picasso, Apollinaire, Braque et les autres, publié aux éditions Mingès et avec une très belle iconographie. Il y a des photos formidables de Picasso,
formidable,
à 25 ans. Je signale aussi un documentaire, Montmartre, du plaisir au crime, de Jean-Pierre Beaureneau, qui sera diffusé mercredi prochain, 5 décembre, à 20h50 sur la chaîne Histoire. Vous avez pu entendre des extraits des films Modigliani de Franco Brogitaviani avec Richard Berry dans le rôle titre, et puis Lautrec de Roger Planchon, édité en VHS aux éditions Fox. Et maintenant, la suite et la fin de notre jeu concours pour gagner le livre Éphéméris, la chronique au jour le jour de 1000 ans d'histoire accompagnée d'un CD-ROM, et édité par France Inter et les éditions de l'Archipel. Il vous suffit de répondre à la question suivante. Le 1er décembre 1987, la police française arrêta un tueur en série qui avait longuement défrayé la chronique. S'agissait-il, réponse 1, de Guy Georges, réponse 2, de Thierry Paulin, ou réponse 3, de Patrice Allègre? Je répète, quel tueur en série a été arrêté le 1er décembre 1987? Guy Georges, Thierry Paulin ou Patrice Allègre? Pour jouer, vous pouvez appeler le 32-30, 34 centimes la minute, puis donner votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Farid Chibani et Yann Bouillot, documentation Pierre Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac.